RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Et Ludovico Bragnac et Jonathan Macardier, vous sur le hashtag RMC Live au 32-16. Bien entendu, on vous attend pour revenir sur les deux résultats de cette 26e journée de Ligue 1. Les résultats qui se sont joués ce soir. Match nul, un partout entre Strasbourg et Lille. Et puis la victoire 1-0 de Saint-Etienne à Dijon. On était avec Eric, supporter du LOSC, il y a quelques instants. On va accueillir Mathieu, supporter du Racing, qui nous a appelé au 32-16. Salut Mathieu.
Salut Nico. Salut à Ludo.
Et salut Mathieu. Jonathan.
Alors, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure que la dynamique du LOSC, elle est pas top en ce moment. Une victoire sur les 4 derniers matchs et c'était face à Guingamp. Alors, c'est vrai que finalement, un match nul face à Lille, le deuxième, c'est plutôt pas mal pour Strasbourg. Mais ça fait 4 matchs en victoire aussi pour le Racing. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathieu? Tu trouves qu'il y a du mieux ce soir quand même pour Strasbourg?
Bah, il y a plusieurs points sur lesquels je pourrais revenir par rapport à s'il y a du mieux. Je te dirais que le fait d'être dans le ventre mou du club, enfin, le ventre mou, d'être vraiment pile poil au milieu de tableau, d'avoir rempli en fait quasiment l'objectif qui était de se maintenir et puis d'avoir un petit peu la tête à ce qui va se passer le mois prochain. Ben, je pense qu'on est un peu dans le creux de la vague, on est un petit peu moins bien dans le jeu, on a un peu moins la pression de devoir gagner. Je pense que devant, malheureusement, même si au niveau mathématiquement on est encore dans le coup pour aller chercher des places un petit peu plus haut, je pense qu'elles seront pas pour nous et il y a des équipes qui seront nettement mieux armées pour aller disputer notamment les places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Donc je pense qu'on est un petit peu, c'est un peu à l'image de notre classement, c'est comme quand on est dans le ventre mou, on a des matchs qui sont un petit peu bizarres, un petit peu c'est ce qu'on a vécu un petit peu ce soir. Et je pense que notre saison va comme on en parlait la dernière fois, va se jouer dans un mois et que là il y aura des cycles sur la dernière partie de saison et voilà ce qui est dommage en fait pour un supporter comme ça quand tu es entre la 10e et la 8e place. T'as plus la pression de devoir te sauver, donc tu as un peu moins d'émotion. Même la Méno ce soir était plus calme, et voilà. Et je pense que ceci explique cela. Maintenant, sur le résultat du match de ce soir, bah, prendre un point contre le deuxième du championnat, c'est, mathématiquement, c'est pas mauvais. Je pense que Lille aurait pu tuer le match beaucoup plus tôt dans la partie. Et moi, j'ai senti une équipe lilloise qui a baissé d'intensité physiquement, qui était cuite en fait vers l'heure de jeu. J'étais assez étonné de voir le bloc lillois coupé en deux. Il y avait encore les trois offensifs qui arrivaient à essayer de jouer un petit peu en contre sur les assauts strasbourgeois. Mais sinon, c'est vrai que Lille avait du mal dans les phases de transition et nous, on a su profiter de ça. Et par rapport à la composition de départ de Thierry Loret, j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à s'enfermer dans un système avec Ludovic Ajorc tout seul en pointe devant. Ouais. Et Thomasson qui n'est pas un attaquant pur.
Ah bah non, pour récupérer les deuxièmes ballons.
En soutien des attaquants, et on a vu avec l'entrée de Lebo Motiba qu'il y avait beaucoup plus de mouvement, et ce problème de mouvement, c'est exactement ce qui nous a manqué.
Après,
dans le match.
Il l'avait dit avant le match, hein, que Lille c'était une équipe qui était dangereuse, qu'il fallait d'abord penser à défendre, tu vois, il a pris personne en traître, hein.
Non, il a pris personne en traite, mais si tu veux, Jonathan, maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Thierry Loret, le fait de s'obstiner maintenant à jouer seulement avec Ludovic Ajorc tout seul devant, au lieu de faire ce qu'on savait bien faire en début de saison, c'est-à-dire avoir des phases, des fois de possession ou des phases de transition ou balle au pied, jeu à terre, on était assez efficace, on arrivait à mettre de la vitesse et du mouvement. Maintenant, on a un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire on a Ajorc devant et on s'obstine à balancer des ballons loin devant pour trouver Ajorc en pivot. Ouais. Alors, ça a marché, puisque au mois de janvier, on a réussi à prendre pas mal de points en jouant comme ça. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on garde aussi cette possibilité de pas être obligé de jouer de cette manière-là.
D'accord.
Et d'avoir un deuxième attaquant pour pouvoir jouer aussi avec du mouvement et pas forcément être bloqué, être obligé de balancer devant pour compter sur la présence physique de Ludovic.
C'est vrai que devant, il a quand même pas mal testé, on va dire, Loret. Hein. Il a jamais vraiment eu, on va dire, une ligne offensive très claire, finalement, depuis le début de la saison. C'était un peu le cas déjà la saison dernière. J'ai même l'impression que c'était plus clair la saison dernière que celle-ci, d'ailleurs.
Bah, ils ont eu chacun leur chance à un moment donné, ils l'ont plus ou moins saisi. Je sais que le tandem, à un moment donné, Motiba, Da Costa, ça fonctionnait plutôt bien, notamment en début de saison, ça leur a permis de récolter pas mal de points. Maintenant, tu as la solution Ludovic Ajorc qui est en forme depuis plusieurs semaines. Mais Ludovic Ajorc tout seul devant, quand tu fais 2 mètres, qu'en termes de vélocité, on va dire que t'es pas le mec le plus vif et le plus rapide dans tes facultés à te retourner, surtout quand tu joues bloc bas comme l'a joué le Racing ce soir, mets-lui quelqu'un à côté de lui. C'est-à-dire que tu peux partir dans cette démarche, à la limite, pourquoi pas, de dire, bon, on joue le LOSC, il y a quand même des fusées devant, on va quand même verrouiller au départ. Mais si tu t'essayes de trouver ton attaquant principal, mais qu'il est esselé et qu'en plus, c'est pas pour se retourner, c'est compliqué, Et ben ça a donné la première mi-temps qu'on a vu. À partir du moment où il change son fusil d'épaule, le retrait de Thomasson dans le milieu à 3 et l'association avec Motiba, ça s'est tout de suite beaucoup mieux passé.
Et puis ce qu'il faut dire c'est que Strasbourg, c'est quand même le gros coup dur, ça a été de perdre Jonas Martin, parce que le jeu était quand même beaucoup plus avec plus de personnalité. C'est un joueur qui était capable de mettre le pied sur le ballon, de savoir donner du tempo et du rythme à son équipe. Et là, voilà, ils l'ont remplacé par le joueur dont je n'arriverai jamais à dire son nom.
Perisic.
Mais c'est pas, il y a quand même une perte de qualité flagrante, et c'était lui qui régulait un petit peu tout le jeu strasbourgeois. Et on le dit pas assez, tu vois, mais j'ai l'impression que on l'a un peu passé sous silence, mais ils l'ont perdu quand même pour 2 mois. Et l'équipe avec et sans lui, c'est pas la même équipe.
Mathieu. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit Jonathan. On sent cruellement, en fait, le manque de Jonas Martin, qui était la rampe de lancement. On avait une paire au milieu de terrain en début de saison qui était très très complémentaire. On avait Sissoko, hein, qui d'ailleurs fait une saison remarquable.
Oui, il est très bien.
À Brest. Et Jonas Martin était là et arrivait en fait à trouver des décalages entre les lignes. Et c'est quelque chose qui nous manque cruellement ces derniers temps. Alors, l'arrivée de Samy Perisic permet un petit peu à pallier ça, mais je pense que Perisic n'est pas Jonas Martin. Il vient d'arriver, il doit aussi s'adapter à un nouveau collectif. Il est seulement prêté.
Jonas Martin, c'était tout simplement ton meilleur joueur, et ton joueur le plus important, en plus d'être le meilleur.
Si, je pense. Et puis même au niveau des supporters, beaucoup disaient que Jonas Martin méritait presque en fait le brassard de capitaine. Moi par rapport à ça, ouais, il y a encore un autre débat qui m'embête, parce que personnellement parlant, j'aime bien le joueur, mais j'ai l'impression que la défense strasbourgeoise est quand même plus sereine quand Mitrovic n'est pas là. Et c'est pas la première fois qu'on se pose cette question. Mitrovic est coupable souvent de petites erreurs bêtes. Alors il est très très combatif, mais le capitaine du Racing, souvent quand il est pas là, j'ai l'impression qu'on a une défense qui est plus équilibrée, plus complémentaire.
C'est trop dur, Mathieu, si on regarde sur la première mi-temps, et combien de fois le LOSC a réussi à s'infiltrer alors que t'as une défense quand même axiale avec trois hommes.
On est les latéraux dans le dos souvent. Et puis Gonsalves, c'est pas un vrai latéral. Enfin, tu vois, il y a ça.
Je suis pas certain qu'on ait vu que c'est été flagrant que l'absence de Mitrovic a permis à la défence.
Parce que la défense n'est pas trop hyper sereine. Je suis d'accord avec vous, les gars.
Je vous donne le calendrier quand même du Racing à venir. Déplacement à Nice, match contre Lyon, déplacement à Nîmes.
C'est compliqué.
C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais.
C'est un gros calendrier.
Ouais, ouais. Le prochain match à domicile, c'est face à Lyon, Mathieu.
Ouais, ça va être un gros morceau, un gros match. Et puis souvent, en plus, on a cette faculté à
réussir. Les gros, vous aimez ça.
Ouais. Contre les grosses équipes, donc on va l'attendre avec impatience, et sera une bonne préparation, je pense, en vue de la finale de Coupe de la Ligue, de se mesurer au gros calibre lyonnais. Ce sera une bonne répétition en termes de pression, et pour essayer de faire plaisir aux supporters. Ce sera un match très très intéressant, je pense.
Mathieu, merci d'avoir été avec nous.
Merci Mathieu.
Eh ben merci à vous.
Et c'est quoi, raccroche pas Mathieu, on va t'offrir 2 places de ciné pour aller voir Destroyer avec Nicole Kidman. Voilà, un thriller haletant.
Eh ben, tu viens avec moi, Nico.
Bah t'habites où, Mathieu?
Bah à côté de Belfort, je suis souvent à l'antenne.
L'AS Belfort, j'en ai fait des matchs là-bas.
Connaissant Nico, il ira pas beaucoup du côté de Belfort, je t'annonce.
Attends, j'en ai fait des matchs moi à Belfort en national, mon pote, avec Maurice Goldman et tout ça là.
Attends, tu t'es embourgeoisé maintenant, tu peux pas aller
voilà, Nico,
c'est un peu le baron de l'Île-de-France, tu vois, le baron des banlieues riches d'Île-de-France.
Franchement, ça me manque moi, je vous jure, les matchs de national à Belfort.
Non, je sais pas, attends.
Tu connais Goldman, Mathieu?
De nom, pas forcément, de nom, oui.
Attends, je crois que c'est l'un des d'ailleurs, j'embrasse Maurice, voilà, qui je sais, écoute l'after, l'un des mecs les plus oufs que j'ai rencontré. Ouais. Il avait un slip fétiche, il faisait des barbecues avec ses joueurs, c'était
On sait d'où c'est, l'histoire des slips fétiches, alors.
C'est ça, non, mais vraiment.
Bon, Mathieu, un personnage. Monte à Paris, t'auras plus de chances de le croiser.
Mais si tu veux, on ira sur un ciné, mon Mathieu. Je vois que t'as envie de me serrer.
avec plaisir, les gars.
Le coquin, il est facile.
Pas un mec facile.
Il est pas
du tout, machin.
Il est pas fort rouge, t'inquiète pas.
Bonne soirée, Mathieu. Merci, Mathieu.
Bonne soirée, les gars.
Si t'as un caleçon de Cristiano, ça peut peut-être passer.
Un slip Cristiano avec une petite poche kangourou.
Pourquoi pas. On vous rappelle donc les résultats de ce soir. Match nul entre Strasbourg et Lille, un but partout. Et puis victoire de Saint-Etienne à Dijon ce soir. 1-0 aussi, supporters des Verts, supporters de Dijon. On vous attend au 32-16. C'est vrai que finalement, Tiens, on vous rappelle le résultat, bien sûr, ouais. Au classement. Lille est toujours deuxième hein, aussi, et Strasbourg est huitième. C'est vrai que Mathieu nous disait il croit plus à l'Europe pour Strasbourg, mais c'est vrai que mathématiquement, c'est loin d'être foutu hein, pour le Racing. Hein.
C'est loin d'être foutu, mais tu l'as dit, le calendrier à venir va être... ça sera un peu le moment de vérité, tu vois, pour vraiment jauger de ce que les Strasbourgeois peuvent viser à l'aune du printemps.
Ouais, puis il y a aussi cette finale de Coupe de la Ligue, qui ouais. est finalement devenu l'objectif prioritaire pour les
Strasbourgeois. Voilà, là tu peux l'avoir l'Europe comme ça.
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais je te parle pour la place au classement qui est quand même importante pour ce genre d'équipe parce que il y a les pépettes hein, qui dépendent en fait de ta place. Je pense qu'on sera vraiment dans 3 matchs. Il y a beaucoup d'équipes pour lesquelles on sera vraiment dans 3 matchs. Je pense que le mois de mars va livrer beaucoup de vérité. Ouais. Quand tu regardes le calendrier, le classement.
Tiens, j'ai donné le calendrier du Racing. On va donner celui du LOSC également. Prochain match, ce sera domicile face à Dijon. Déplacement à Saint-Étienne. Match à domicile face à Nantes. Et après, ils ont deux déplacements à Nantes et à Reims avant d'accueillir le Paris Saint-Germain.
Ça me semble assez correct comme calendrier.
Ouais. Toi, deuxième place, tu dis c'est bon quoi.
Podium sûr. Deuxième place quand même, Lyon. J'ai peur que Lyon revienne fort quand même.
Ouais. Mmh. Ouais, ils commencent à revenir. Hein. S'ils gagnent ce week-end contre Monaco, ça peut piquer.
Lyon, de toute manière, on sait toujours qu'en deuxième partie de saison, le Lyon depuis 2-3 ans là, c'est dès que le printemps il se pointe, c'est pas la même équipe.
Tiens, on accueille Pierre, les gars, supporter lillois qui nous a appelé au 32-16. Salut Pierre.
Bonsoir.
Salut Pierre. Pierre.
Comment va Pierre?
Ça va. Ça fait, on peut toujours dire qu'on est invaincu en 2019 en championnat. Si on peut se consoler comme ça sur cette statistique. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si le fait d'avoir eu 3 absents très importants, qui étaient Čelić, Čeka et puis Soumaro, surtout Galtier qui était en tribune et qui n'était pas sur le terrain pour donner les consignes. Est-ce que ces éléments-là...
Enfin, il les donnait quand même. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure.
Sur Léao, comment il a rencontré. Il s'est bien débrouillé quand même.
Ouais. Raphaël a fait un très bon match. Moi, ce qui m'a embêté un petit peu, c'est Thiago Maia, qui dans les relances offensives est pas très bon et prenait peu de risques aussi
C'est ça, pour surtout.
Relancer. J'ai du mal un peu avec ce joueur, je sais pas pourquoi, je sais pas quelle est votre opinion sur lui, sachant que c'est le salaire quand même le plus important du lot,
c'est
simple. Le plus gros transfert d'histoire.
C'est ouais. Simple, c'est un joueur, c'est un beau joueur au Brésil, je l'avais vu jouer quelques fois, c'est vraiment un beau joueur, mais je pense juste qu'il est pas encore à son niveau, parce que je pense qu'il est capable de faire bien mieux par rapport à ce que j'ai pu voir de lui, et je sais pas si c'est un joueur qui va être capable... physiquement et dans l'intensité de s'adapter aux exigences en Europe. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont très forts quand tu joues au Brésil ou en Argentine où l'intensité et le rythme des matchs surtout est moindre, mais qui n'arrivent pas à donner la pleine mesure de leur talent une fois qu'ils arrivent en Europe. Et je vous rappelle juste que quand il arrive, Thiago Maia, il y a quand même une hype énorme qui l'entoure. On en parlait, le Paris Saint-Germain était dessus aussi, qu'il y avait Manchester City. C'était censé être une grosse prise. Mais je pense vraiment qu'il y a ce gap, tu vois, ce gap physique qu'il faut encore qu'il comble.
Ouais, c'est pas faux.
Et dans la vitesse d'exécution aussi, parce que tu vois quand il loupe ses relances, moi de ce que j'ai voyé de lui quand il jouait dans son pays, ça c'est pas des relances qu'il loupe, mais je pense que c'est là avec la, tu vois, avec l'impact, les duels qui sont un peu plus forts, avec le défenseur qui arrive un petit peu plus vite au pressing, c'est pas une question, un problème technique, c'est juste physique.
Qu'est-ce après, t'en ça penses, fait un an qu'il est au club, hein, théoriquement il aurait dû s'adapter depuis déjà bien longtemps, et j'ai pas l'impression qu'il soit peut-être heureux dans le groupe ou dans la région. Et peut-être que tu as raison, c'est pas forcément un joueur qui sera performant en Europe, mais c'est pas le seul qu'on peut citer aujourd'hui. J'ai Araújo aussi, son entrée est pas très bonne et je pense qu'il a aussi du mal à s'adapter un peu dans le rythme.
Ah mais là ça c'était prévisible par contre.
À sa décharge, les rentrées précédentes, il avait été très bon. Donc ça peut quand c'est on vrai. Rentre ouais. comme ça, souvent en cours de match, apparemment Christophe Galtier disait que c'était un garçon qui était assidu aux entraînements et qui méritait justement de jouer. Tu peux imaginer qu'à un moment donné, il y a aussi une certaine lassitude.
Mais...
Et pour avoir vécu cette situation, c'est jamais évident, notamment dans ce genre de match où ils ont eu l'ascendant. Mais quand il est rentré, il y avait d'énormes écarts entre les lignes. Quand tu rentres comme ça, c'est difficile à prendre le rythme du match. Donc, à sa décharge pour une fois, mais sur les rentrées précédentes, il avait été vraiment...
C'était plus prévisible pour Araújo qu'il aurait un peu de mal à s'adapter par rapport à ce qu'on voyait lui au Brésil. Après, je vous donne juste un exemple pour illustrer ce que je dis sur Thiago Maia. Vous vous rappelez de Lucas Silva? Le fantôme là, Fantomas, prêté par le Real Madrid à Marseille, vous rappelez de ses performances? Il est titulaire au Brésil à Cruzeiro et il est pas mal. Donc il y a vraiment il faut pas se baser sur les performances d'un joueur quand il joue dans ces championnats-là, qu'on suit beaucoup, Nico, toi,
chez ouais, mais alors moi je vais même aller plus loin que toi.
Les championnats, ce qu'on peut voir ici.
C'est pas une question de championnat, c'est surtout une question d'équipe après. Dans un même championnat, t'as des équipes qui jouent de façon différente, même si là où je vais dans ton sens,
c'est le rythme.
Ouais, le rythme Sudam et notamment au Brésil et en Argentine, c'est plus que c'était, ouais. Les mecs ils jouent en marchant.
Bah oui. Ouais, Lucas Silva, c'est un beau joueur là-bas. Ouais. T'imagines? Tu te rappelles de lui à Marseille?
Non.
Tu te souviens pas le Brésilien?
Ouais, bah, y a pas grand chose à se rappeler, de toute manière.
C'est bien.
Tu te souviens pas?
Non. Prêté par le Real Madrid.
Ouais, ouais, à l'époque, quoi. Y avait une grosse hype aussi.
Michel, il disait, ça va
disons,
être.
Disons qu'il m'a pas marqué.
Ah, bah, y avait de quoi.
Après, Rafael Leão est très fort aussi, il m'impressionne de plus en plus. Et, Ludo, je sais pas s'il te rappelle quelqu'un. Moi, dans son impact physique, ça me fait un peu penser à Moussa Sow à l'époque, qui avait une présence incroyable dans la surface de réparation. Et dans ses appels et sa protection du ballon, vraiment, il m'impressionne de plus en plus, ce gars-là.
Bah, tu sais quoi, même moi qui l'ai suivi au Sporting, il m'impressionne aussi, notamment techniquement. Je le trouve pas.
Non, mais c'est un garçon qui est en progression constante là depuis quelques semaines. Mais il faut être sur son dos constamment. Il a tendance à
c'est ce que Galtier dit, c'est un peu un enfant, quoi, un bébé.
Mais, ouais, tu vois, coutumier d'une certaine nonchalance, notamment à l'entraînement. Bon, voilà, il faut être tout le temps sur son dos. Mais c'est vrai qu'il y a une réelle progression depuis quelques semaines. C'est pas anodin s'il a marqué 5 buts, je crois, sur les 6 derniers matchs. Ses déplacements sont là encore sur la passe de, il me semble, sur la place de Pépé. Il est à deux doigts d'ouvrir le score. Il fait un très bon appel où il part de l'axe pour aller vers le côté droit.
Il est encore perfectible dans ses appels.
Ah, non, mais c'est un garçon qui.
Tu sens qu'il a un potentiel de malade.
C'est un diamant brut qu'on est en train de polir du côté du LOSC. Mais oui, moi j'aime beaucoup ce garçon et il sera sûrement amené à faire les beaux jours de cette équipe-là dans les saisons à venir.
Merci Pierre d'avoir été avec nous.
Pas
merci. Si je peux juste faire une petite dédicace pour Quentin qui nous écoute, enfin qui vous écoute en podcast depuis Atlanta aux États-Unis.
Oh bah bisous Quentin.
Il est vraiment fan de votre émission.
Il boit du coca alors.
Il voulait qu'on passe le coucou. Voilà.
Bah, on l'embrasse.
Bah c'est la ville du coca Atlanta.
C'est la ville de plein de choses non?
Du coca.
Ah peut-être. Ouais. Il y a un très beau stade en tout cas qui a été fait récemment.
C'est la bise à Quentin
alors. Je crois que leur équipe est première en championnat aux États-Unis.
Bah écoute, bisous à Quentin alors.
Voilà. Embrasse.
Merci.
Ciao,
merci,
bonne soirée. Bonjour à toi aussi, Pierre. À bientôt.
Bon, quand t'as des réflexions gênantes comme ça, bon, tu.
Non, c'est pas gênant.
Bah non, faut dire Pepsi et Brest Cola.
Atlanta est connu pour être une grande zone industrielle américaine et qui est là où Coca-Cola est né.
Ok, voilà. Merci pour cette info, Jonathan.
On passe à l'autre match de cette soirée, Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 face à Dijon. Alors un seul but dans ce match, vous l'aurez compris, sous motif 64e. C'était un peu le
pire. Oh là là.
Juste une info parce que ça vient de tomber, Saint-Etienne vient de tweeter. Gabriel Silva qui est sorti sur blessure.
Tendon d'Achille.
Il est blessé au pied gauche, rupture du tendon d'Achille. Il sera opéré en début de semaine prochaine à Saint-Etienne.
Ah là là.
Ce qui explique le club.
Suis,
gros coup dur, hein, quand même.
C'est un gros coup dur parce qu'il est bon. Bon, alors juste je le fais de la pub parce que je l'ai promis, il y a un compte sur Instagram qu'il faut absolument suivre, ça s'appelle ASSE News Humour.
D'accord.
Actu humour. Et c'est ce mec, il est fou, il fait que ça on dirait de la journée, il poste 30 stories avec des montages sur les Verts et tout, et c'est un vrai supporter passionné.
C'est quoi,
passionné
t'es des Verts. Dans ton rush là au niveau des infos?
Non. il est génial, il me fait mourir de rire. Alors que moi Saint-Etienne, j'aime bien, je regarde leur match, mais il fait des montages, il fait des mèmes avec les joueurs stéphanois qui sont assez drôles, et son pseudo, c'est qui est très drôle sur Twitter, il me semble que c'est Centre de Jonco. Donc allez le suivre, il est bonnard.
Ouais, c'est pas mal.
Il est vraiment marrant.
Saint-Etienne qui avec cette victoire revient à 3 points de l'OL et prend 3 points d'avance sur Marseille. Alors c'est vrai qu'ils ont pas encore joué hein, les Lyonnais et les Marseillais, mais c'est vrai que c'est une victoire importante hein, pour Saint-Etienne qui est pas au top non plus en ce moment. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fond de jeu, les résultats étaient pas forcément là non plus. Voilà, c'était une victoire en 6 matchs avant cette rencontre. C'est quand même pas folichon hein, ce que font les Stéphanois.
Sans déconner. Le match, il est horrible. Ok, faut dire comme c'est. La première mi-temps notamment, il y avait rien. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est que, alors oui, Gasset est très sympathique, c'est bien, elle a sauvé les Verts la saison dernière. Ils sont bien positionnés au classement, mais quand même, il y a ce qu'ils proposent dans le contenu, c'est pas folichon. Et il y a des choix, notamment dans le 11 de départ. Tu te demandes à quoi ça rime. Alors, à quoi ça sert d'aller jouer contre Dijon en jouant avec cette défense à 5? Moi, je comprends toujours pas. Comment ça se fait qu'un mec comme Loris Diony, il a quoi? Il a un totem d'immunité à Koh Lanta, là? Il est resté une demi-heure sur un poteau, sur une jambe. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le 11? Robert Berry, il pourrait y aller à chaque fois qu'il marque, il retourne sur le banc, et il est bien, alors qu'il est bien meilleur. Moi, ce que je comprends pas dans cette équipe-là, donc quand je vois à chaque fois la composition de départ, c'est qu'il y a aucune cohérence par rapport à ce que tu as sur le banc. Et là, quand tu vas à Dijon et que tu joues à 5 et que tu te contentes de gagner 1-0, eh ben, je suis un peu déçu, parce qu'il y a quand même, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de qualité. Alors oui, il y avait des absents ce soir qui font que, voilà, tu pouvais pas disposer de toutes tes forces, mais je reste quand même assez circonspect par le contenu.
Et vous trouvez pas, alors, et c'est, pour le coup, c'est totalement l'inverse par rapport à il y a un an, mais que le mercato, pour le coup, là, il leur a fait mal. Autant l'année dernière, c'est ce qui leur permet de se refaire la saison.
Les gens, ils
disent, c'est Elnaes qui est un vrai bon joueur.
J'ai entendu divers animes en disant, oui, Mvila, il est moins bien contre Paris, machin. Non, mais les gars, on les a vus, on les a fait beaucoup de fois, Saint-Etienne. C'est Elnaes qui faisait le jeu. Après moi, Selnes qui faisait le jeu, mais parce qu'il était bon, parce qu'il avait Selnes à côté. C'est lui qui bonifiait tous les autres joueurs. Donc de l'avoir vendu, surtout pour la somme qui à laquelle ils l'ont vendu. Bon, c'est bien, il est parti, il va se faire du blé. Mais je pense que ça aurait pu attendre là au moins la fin de saison pour avoir plus d'ambition pour le classement général.
Ludo,
non, je suis un peu.
Comment t'expliques-toi que Saint-Té galère autant dans le jeu?
Je sais pas.
Les mecs sont quatrième de Ligue 1 quand même. C'est vrai, hein, quand tu regardes le classement, tu dis bravo les Verts, mais c'est vrai qu'en termes de jeu, on s'emmerde, quoi.
Peut-être le manque d'ambition, tout simplement. Quand tu vois que tu commences le match et que t'as des running man hein, dans l'équipe, mais c'est vrai qu'on aimerait avoir des joueurs qui ont une touche un peu plus technique, notamment sur la pointe haute. Tu le disais, je comprends pas. Ils viennent de prolonger. Alors est-ce qu'ils le gardent au frais pour le prochain match? Mais il même pas rentré 20 minutes, un quart d'heure. Pourquoi il joue pas ce garçon? Ils viennent de le prolonger en plus.
En plus, quand il marque, t'es sûr qu'il va être sur le banc le match d'après? Je comprends pas. Et c'est pas comme si à sa place il y avait un mec qui flambait. Hein. C'est Loris Diony. C'est un des pires joueurs de Ligue 1.
Bon, peut-être non, pas non plus. Mais...
pas non plus. Mais bon, c'est vrai que.
Ah, t'es dur là.
À ce poste-là. Ok, alors le ratio nombre de matchs joués, minutes passées, confiance de l'entraîneur et performance, je pense que c'est le pire.
Bon, tu veux dire que c'est un chouchou?
Bah, j'ai l'impression.
Non, mais c'est un garçon qui fait quand même beaucoup d'efforts. Il faut pas lui enlever ça. Qui peut peser des fois sur une défense pour libérer justement Cazeri et Cabella. Mais là, en l'occurrence, tu te déplaces à Dijon. Donc tu te dis bon, Dijon qui est dans une situation compliquée. Déjà, tu pars en étant 5 derrière. C'est pas un système que t'as utilisé beaucoup de fois cette saison. Tu fais jouer.
Attends, les latéraux. Ok, Gabriel Silva, ouais. Mais il y a quand même. Et l'autre, c'est Paulo Mat. Hein, c'est pas Daniel Vest, tu vois. C'est Paulo Mat.
Tiens, on va accueillir Tony, supporter des Verts, qui nous a appelé au 32-16. Salut Tony.
Salut tout le monde.
Salut Tony.
Alors Tony, je crois que toi non plus, tu comprends pas pourquoi Berić ne joue pas.
Non, je comprends pas. Ouais, je rejoins un petit peu ce qui a été dit juste avant moi. C'est que ouais, effectivement, ce mec-là, il y a un match où il nous marque un but, il nous fait une passe D. Et puis le match d'après, il joue pas, donc je sais pas. Alors après, on n'est pas à l'entraînement tous les jours, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Mais à mon avis, il y a un souci. Alors effectivement, il y a peut-être un cocooning avec Diony. Et Dieu sait que moi, Diony, j'ai été l'un des premiers à le soutenir avec mes collègues dans la tribune. Mais ouais, effectivement, il faut se rendre compte que Diony, il est pas trop dans le coup et que voilà, c'est peut-être un coup de cœur gacé. J'en sais rien. J'y vais vraiment avec des pincettes parce que je me répète, on n'est pas dans le groupe tous les jours, on n'est pas à l'étra tous les jours. Mais ouais, c'est bizarre, quoi. C'est vraiment, c'est une grosse question, quoi.
Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut dire. C'est que, franchement, Rémi Cabella, c'est compliqué, hein, ses performances, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais, ça fait longtemps que je l'ai pas eu faire un match.
Mais alors, attends, Tony, juste une question à toi qui est supporter des Verts. Est-ce que toi, en tant que supporter, tu kiffes quand même parce que t'es quatrième? Ou un peu comme nous, qui sommes plus objectifs quand on regarde Saint-Etienne, t'es comme nous, tu t'emmerdes un peu, finalement?
On s'emmerde un peu. Enfin, j'avoue qu'on s'est pas trop emmerdé avant le match de Lyon, mais honnêtement, après, ouais, ce match est toujours un tournant dans une saison.
Ouais, c'est vrai qu'il
a fait énormément de mal.
Ouais, exactement.
Moi, je peux vous le dire, il a fait énormément de mal. On s'en rend pas compte.
Ah ouais, on a buts avec une victoire jusqu'à ce soir. Ouais.
On gagne Strasbourg, c'est l'arrache. On gagne ce soir, c'est l'arrache. Bon, Paris, on perd et encore, on perd. Voilà, on peut en prendre quelques-uns de plus.
Tu t'en prends 6 contre Dijon, notamment en coupe. Entre temps. Tu as le fameux 6-3 en coupe face à Dijon, tu as le match face à Rennes, tu as la défaite face au PSG, c'est vrai que c'est dur hein, pour Saint-Té.
Ouais, après je me répète, le derby a fait mal, mais après, il faut pas vivre qu'avec un derby ou deux derbys en l'occurrence sur une saison. Lyon est plus fort que nous, tant pis, c'est comme ça. Mais on est quatrième, c'est bien, mais franchement, il n'y a pas de quoi s'enflammer parce que. Déjà, quand on voit les équipes qui sont en tête devant, à part Lyon et Paris, Lille, franchement, ça casse pas des barres, quoi. Ils sont réalistes, ils sont tout ce qu'on veut, mais franchement, mais qu'est-ce que notre championnat est faible, quoi. Quand je pense qu'on nous vend ça, mais des millions et des millions, mais c'est incroyable, quoi.
C'est bravo, faut les féliciter.
Voilà, on verra.
Tony, merci d'avoir été avec nous.
Ciao, Tony.
Merci à vous, les gars.
Salut, Tony.
Bonne soirée,
Tony.
Ciao.
Bonne soirée.
Et je vous donne quand même le calendrier de Saint-Etienne, parce qu'alors là, ça va valoir son pesant de cacahuètes. Alors vous savez que pour l'instant, Saint-Etienne a 3 points d'avance sur Marseille. Marseille va jouer. Marseille peut revenir à égalité de Saint-Etienne. Et il y a quoi la semaine prochaine? Match au Vélodrome
Saint-Etienne.
Entre l'OM et la SSE. Et la semaine suivante, les Verts joueront face à Lille. C'est vrai que là, le haut du classement, il va se jouer là. Toi, tu parlais du mois de mars. C'est vrai que c'est là. On va commencer à rentrer dans le money time là, dans le
Marseille fait Rennes et Saint-Etienne. Tu vois, sur les deux prochains matchs.
Ouais, c'est pas mal.
Là, comment savoir?
C'est pas mal.
Pour le podium.
Dans quelques instants, on va revenir sur le tirage au sort des huitièmes de finale d'Europa League. Rennes, eh bien, jouera face à Arsenal. Avec un match retour qui sera à Londres. Et ouais. Et non pas à Rennes. Alors que le tirage au sort, on avait dit que c'était d'abord à Rennes. Explication dans quelques instants. Soyez attentifs, hein. Voilà, reposez-vous. On vous donne quelques secondes pour revenir avec Ludo Bragnac et Jonathan McCardy. On vous rappelle que Saint-Etienne s'est imposé à Dijon 1-0 ce soir et qu'il y a eu un partout entre Strasbourg et Lille. À tout de suite.
RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
De Ludovico Bragnac et de Jonathan McCardy qui se disaient, Ludo.
Rien.
T'as jamais vu
quoi? C'était qui? Mais qui? Quoi? Dont? Où? Mais
on
où est donc Cornicar?
Ce soir, il y a eu match nul entre Strasbourg et Lille, affiche de la 26e journée de Ligue 1 et que Saint-Etienne s'est imposé 1-0 à Dijon. Et puis aujourd'hui, il y a eu le tirage au sort des 8e de finale d'Europa League. Ce sera les 7 et 14 mars prochains. Alors 7 mars, match aller, 14 mars, match retour, vous aurez compris. Je vous donne le tirage au sort tout d'abord. Arsenal-Rennes, voilà, Rennes, seul club français encore engagé dans cette Europa League. Chelsea-Dynamo Kiev, Eintracht-Francfort-Inter Milan, Dynamo Zagreb-Benfica, Napoli-Salzbourg, Valence-FC Krasnodar, Séville-Slavia Prague et Zénith-Villarreal. Alors le match aller aura lieu donc le 7 mars à Rennes à 18h55, le retour le 14 mars à 21h à Londres. Oui mais voilà, au moment du tirage au sort, c'est Rennes qui devait jouer le retour à domicile, puisque c'était initialement un Rennes-Arsenal, mais le tirage a finalement été inversé. Alors pourquoi? Là, faudra suivre les mecs.
Attends, est-ce que tu vas être aussi bon que l'explication de la Ligue des Nations.
Oh non, j'avais été bon sur la Ligue des Nations.
Alors, tu m'as impressionné parce que pour comprendre.
Alors, prenez des notes.
Non, mais là, les gars, c'est
simple à comprendre.
C'est pas une logique. C'est pas si simple finalement parce qu'il y a plein de choses qui s'imbriquent. Il n'y a pas vraiment de logique. Vous allez comprendre là.
Raconte.
Et puis finalement, il y en a. Il y a deux matchs qui sont concernés ici. Il y a le Chelsea Dynamo Kiev et le Arsenal Rennes. Alors, c'est la règle sécuritaire qui s'applique. En gros, dans les compétitions européennes, il peut pas y avoir deux matchs dans une même ville ou dans des villes séparées par moins de 50 km pour des questions de sécurité. En gros, on peut pas mobiliser suffisamment de services d'ordre pour surveiller quatre groupes de supporters.
Avec les déplacements.
Okay. Alors la solution, ce serait donc d'avancer le match au mercredi, puisque les matchs ont lieu le jeudi en Europa League. Oui, mais le mercredi, il y a Ligue des Champions. Voilà, il y aura notamment Barcelone-Lyon, Bayern Munich, Liverpool à 21h. Faudrait donc avancer le match à 19h. Et c'est là où les choses se compliquent un peu plus. Il y a un accord tacite entre l'UEFA et le Royaume-Uni et aussi le Portugal. Vous savez qu'il y a une heure en moins au Royaume-Uni et au Portugal. Ouais. Et en fait, dans ces pays, on ne veut pas que les matchs aient lieu à 18h55 puisque, heure locale, ça fait gros 17h55. Alors, et c'est là où le lobby joue un petit peu. C'est que les stades ont du mal à se remplir et que finalement, les audiences télé sont moins bonnes. Et c'est un peu le nerf de la guerre, notamment les droits télé et les audiences télé. Donc voilà pourquoi il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Voilà pourquoi ce match a finalement été inversé. Mais la règle numéro une, si vous voulez, c'est qu'il y a Chelsea, Dynamo Kiev, à la même heure. Et c'est là où le règlement, il est parfois un peu chelou. C'est ce qui s'est passé notamment entre Séville et le Betis qui devaient jouer le même jour. Vous savez que finalement, Séville a joué son match face à la Lazio le mercredi et non pas le jeudi. Pourquoi c'est, le match de Séville qui a été changé à ce niveau-là.
Classement UEFA?
Non, alors justement, c'est pas ça. C'est le classement du championnat de la saison précédente. Rien à voir avec l'indice UEFA.
Okay.
La saison dernière, le Betis avait terminé sixième et Séville septième. Celui qui termine devant en championnat, ça ne change pas. Okay. Voilà. Même s'il n'est pas favorable.
Okay.
Son tirage au sort ne change pas. Voilà. Et voilà pourquoi c'est Chelsea qui a gardé tirage au sort et pas Arsenal.
Bah, écoute, moi je trouve ça
même si c'est avantage Arsenal.
C'est injuste, tout ce que tu veux. Après, j'ai écouté Olivier Létang qui est passé dans l'émission de Willy Sagnol tout à l'heure et il a dit quelque chose de très juste à mon sens, c'est que bon, ça fait chier.
Tu veux pas qu'on l'écoute? Bah, on va l'écouter, ouais. Tiens, justement. Est-ce qu'il est choqué, le président du Stade Rennais? Il était l'invité ici, c'est Willy tout à l'heure.
Aujourd'hui, nous subissons le règlement de l'UEFA très clairement. Qui est en notre défaveur. Il y a un règlement qui est très clair. J'ai demandé à mes équipes effectivement de l'étudier. On est toujours en discussion aujourd'hui et au moment où je vous parle avec l'UEFA pour avoir un certain nombre d'éléments concrets. Et je considère que en l'état et compte tenu de ce règlement, s'il doit être confirmé, le Stade Rennais aujourd'hui est défavorisé par rapport à Arsenal puisque c'est clairement le gros, celui qui est favori, qui va jouer le match retour à domicile.
Mais c'est après en fait, c'est ce qu'il dit après. J'ai trouvé très 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 juste, c'est de dire que voilà, c'est injuste, que son équipe est sur le cas, mais qu'il souhaitait que dans les médias et que le club même n'en fasse pas trop pour pas perturber les joueurs, pour pas grossir l'histoire plus que ce qu'elle n'est, pour pas venir perturber la préparation mentale des joueurs sur ce match-là. Et je trouve que c'était la bonne réaction à avoir.
Ludo. Bah, c'est sûr que cette décision, elle joue en la défaveur de Rennes, parce que recevoir sportivement, c'est toujours... Allez, les statistiques sûrement le montrent, mais c'est toujours mieux de recevoir le match retour. Après, comme tu l'as expliqué, si c'est pour des raisons de sécurité et que c'est dans le règlement, qu'est-ce que tu veux faire?
Bah alors certains diront ouais mais pourquoi on fait pas comme ce qui s'est passé avec le Betis et le FC Séville, c'est-à-dire de jouer le match la veille. Bah,
et là on va expliquer aussi pourquoi. Voilà. C'est là où l'influence des clubs anglais, du championnat anglais et de tout ce qu'ils génèrent et des lobbies comme tu en parles fait que ben tu peux pas lutter.
Sinon alors pour parler du tirage en lui-même côté sportif justement, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon tirage? Ouais, c'est un bon tirage ou pas?
Il aurait pu avoir peut-être un petit peu plus
simple, tu veux dire.
Voilà.
Ouais.
Après,
pour les supporters rennais, c'est une top affiche.
C'est ça, ouais. Je pense que, franchement, Arsenal, quand tu regardes les dernières prestations, je pense que cette équipe est prenable. Alors, il y a beaucoup de variations. C'est en fond. Moi, je pense que je vais pas vous mentir. Hein, je les ai vus 6-8 fois cette saison, Arsenal. Mais je pense qu'il y a un Arsenal avec Lucas Torreira et un Arsenal sans. Et je comprends pas pourquoi, mais il le met pas
moins le cas,
plus systématiquement. Ah ouais?
Ouais.
Ok.
Franchement, c'est moins le cas.
Mais c'est pas une équipe que je trouve vraiment avec beaucoup de personnalité. Je le trouve vraiment dans le scie. Et je pense que si Rennes fait le match qu'il est capable de faire le match qu'ils ont sorti jeudi, je vois pas pourquoi Rennes pourrait pas rivaliser avec cet Arsenal-là. Après, c'est toi le spécialiste de la PL, mec.
Je vous donne une petite info également. Vous savez que Lacazette a mis un coup de coude face au Baté Borisov lors du match aller.
Ça sera suspendu deux matchs.
Alors deux matchs de plus, donc les deux matchs face au Stade Rennais, parce qu'il a pris trois matchs. Il a déjà d'ailleurs purgé un match de suspension lors du retour face à Baté Borisov.
Et ça, c'est une absence qui est non négligeable quand même, parce que là, c'est vrai que. Il est avec Aubameyang, ils forment une doublette les deux, et quand lui est pas là, ça fonctionne un peu moins. Donc, finalement, il y aura peut-être un coup à jouer pour les Rennais. Après, forcément, Arsenal part grandissime favori. Mais
c'est pour ça que je me demande si c'est pas un bon tirage finalement pour le Stade Rennais. Au moins t'es peinard, t'as pas de pression quoi.
Ouais. Moi, tu sais quoi, je pense que c'est un bon tirage dans la mesure où je pense que Rennes est capable de rivaliser et même de sortir Arsenal et que ça peut leur donner une confiance folle pour aborder la suite de la compétition et la suite de la saison. Ça peut être quelque chose qui déclenche vraiment quelque chose de très beau. Alors que déjà, on va être d'accord, hein, ce qu'ils ont fait au Betis, je pense que ça leur a donné un capital confiance qui, à mon sens, va jouer dans le prochain tour.
On accueille Simon, supporter du Stade Rennais, qui nous a appelé au 32-16. Salut Simon.
Salut les gars.
Salut Simon. Salut
Simon.
Bah,
Simon, déjà, est-ce que t'es vénère toi par rapport à ce point du règlement qui fait que finalement le tirage au sort a été inversé et que Rennes ne recevra pas au match retour?
Non, après il y a un règlement. C'est vraiment l'article sorti nulle part sur une histoire de deux matchs dans la même ville. Après il y a un règlement. Voilà.
C'est chiant quand même. Attends, avoue. T'aimerais bien fêter la qualif au stade, tu vois?
Ouais, mais c'est clair que oui, c'est embêtant. Maintenant, ce que disait Olivier Létang chez Willy là, ce soir, c'est qu'il disait voilà, si l'UEFA il y a un règlement et qu'ils disent que c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, on va pas non plus s'éterniser, on va passer à autre chose. Après, c'est dommage. Moi personnellement, ça m'embête parce que du coup, je peux aller qu'au match retour. Alors, ça sera Arsenal, donc ça va être compliqué pour moi d'y aller. Je pourrais pas aller au match aller à Rennes. Donc, parce que par contre, le match à 19h un jeudi soir, ça, je trouve ça un peu moyen. C'est un autre sujet, mais les matchs en semaine à 19h, voilà. Si un jour ils peuvent revoir leur position sur ce plan-là, ça serait bien.
Ça, les Anglais, ils ont demandé à ce que ça se produise pas chez eux. Même si c'est chez eux, c'est 18h, mais
après, je crois que de ce que j'ai compris, c'est qu'en Angleterre, ils ont des dérogations un peu sur ce qu'ils veulent. Nous, c'est pas le cas. Bon, maintenant.
Plus dans l'Union Européenne en plus. Simon, est-ce que tu trouves que c'est un bon tirage ou pas, toi?
Ouais, pour moi c'est un bon tirage. D'ailleurs, c'est hier soir, j'ai envoyé texto, je dis allez maintenant on va se prendre Arsenal. Et du coup ça s'est passé, ça m'a fait sourire. C'est un bon tirage parce que pourquoi? Parce que oui, on peut rivaliser, comme a dit Jonathan, je pense qu'on peut rivaliser. Après, comme a dit aussi Ludo, on n'est pas du tout favori. Mais ce qui se passe, c'est que si on passe, c'est encore un exploit, et si on passe pas, on se sera arrêté contre Arsenal, et on aura retenu notre épopée avec cette victoire à Séville.
Tu sais.
Donc, je préfère ça que perdre à Krasnodar.
Et puis, attendez, vous êtes qualifié à Séville.
On s'est qualifié
à Séville, à l'extérieur, deuxième match. Donc, pour moi, ils sont capables de le faire.
Après. Match retour, peut-être que, on peut le refaire.
Je suis impatient de voir, comment Stéphane va organiser son milieu de terrain. face à Arsenal. Je pense, alors tu me diras si je me trompe, corrige-moi Nico, bah ça je sais que tu les fais tout le temps, mais il va falloir bien prendre Torreira, qui est la plaque tournante de l'équipe, l'empêcher après, de distribuer, de toucher la ligne qui est juste devant lui, et je sais pas qui il va faire défendre sur Torreira.
Mais après il fait pas mal tourner aussi en Coupe d'Europe, hein. Tu sais, ouais. Guendouzi joue pas mal aussi, tu sais les Anglais sont un peu, enfin ils ont un gros coup à jouer en championnat aussi. Arsenal, c'est assurer une place sur le top 4, c'est chaud avec Manchester United. C'est vrai qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises. Ça pour le coup, c'est aussi plutôt une bonne nouvelle pour le Stade Rennais. Hein,
aussi, ouais. Aussi, hein.
C'est que Arsenal, ils ont la priorité qui est le championnat aussi.
Mais Emery, c'est la Ligue Europa, c'est sûr, tu vois, envie, ouais. C'est important pour lui.
Ouais.
Bah de toute façon, il va réintégrer Benjamin André au milieu de terrain, forcément. Mm. Après, à savoir où est-ce qu'il va replacer Bourigeaud, sachant qu'à Thème, il va jouer autour de l'attaquant.
Mais après, c'est pas Clément Grenier qui va défendre sur Torreira, peut-être, qui sera dans sa zone. Mais ça va être un beau match.
Donc tu mets ton ami Clément Grenier sur le banc.
Mon ami. Non, je t'ai dit, c'est lui qui va défendre sur Torreira, qui sera dans la zone de Torreira.
Non, mais ça se jouera forcément peut-être entre Ounou et Mbaye Niang pour savoir qui jouera en pointe. Parce que, ouais. Bon, j'imagine pas Bourigeaud, quoique, tu me dirais, il l'a mis sur le banc ces derniers temps. Mais bon, c'est vrai que c'est une vraie réflexion. Et je pense qu'un coach, justement, il préfère avoir ce type de choix à faire plutôt que
notre quota rennais de la rédac, Jérôme Thomas nous dit Ounou en pointe et Niang sur le côté, ça a bien marché.
Eh ben attends, non mais oui, les baloches qu'il a eu quand même d'aller à Séville avec cette composition d'équipe là qu'il a maîtrisé parfaitement tactiquement le match. Ce mec là, j'ai fait une petite lipette à Jean-Marc Furlan en début d'émission, mais là je pense que Stéphane, on peut quand même dire que ce qu'il fait depuis qu'il a pris l'équipe en main, ben c'est quand même costaud, hein. C'est
ouais, très, tu kiffes Simon aussi.
Ouais, sur tactiquement hier, sur ce qu'il a fait, je suis complètement d'accord avec vous. Enfin,
c'est génial.
J'ai été épaté sur l'ensemble du match et c'est surtout sur les leçons qu'il retient du match aller où la possession était à 75% pour le Betis. Hier, c'était à peu près 57-43 d'après ce que, si je me trompe pas. Et c'est sur les sorties de balles. En fait, Ben Arfa, moi, j'ai trouvé hyper intéressant parce que il a pas fait du Ben Arfa comme on sait le faire, comme il sait pas le faire d'ailleurs justement en ce moment. Et là, il a conservé le ballon et il a joué juste. On n'a pas perdu le ballon trop rapidement. Alors, il y a eu des phases en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. Mais en fait, ils sont aperçus qu'il fallait arrêter d'aller trop trop vite vers l'avant, il fallait conserver. Et on a fait une phase de jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a resté 10 minutes où on a fait une passe à 10, on entendait des haulés des supporters de Rennes.
Ouais.
Alors qu'il n'y avait que 2-1. Et là, ça leur a mis un gros gros coup au moral, je pense, aux joueurs de Séville.
Mais quand même, à l'extérieur, à Séville, avec au milieu, Grenier Bourigeaud, c'est quand même
mais c'est pas incohérent quand tu connais un peu tes joueurs, tu sais que Bourigeaud, il a joué à ce poste-là à Lens aux côtés de Bostock.
Ouais.
Et tu sais que Clément Grenier, il a pu occuper ce poste-là.
Et puis tu sais aussi que quand tu fais 3-3 chez toi au match aller, et t'es obligé de gagner au retour, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais même les joueurs qui mettent de mettre ce milieu à 4 avec Sarr et Niang sur les côtés, enfin c'était vraiment une démonstration.
Merci Simon d'avoir été avec nous.
Merci les gars.
Bonne soirée,
Ludo, spécial dédicace à Ludo parce que moi je suis un joueur de foot amateur qui est gaucher et voilà, ça a toujours été un exemple pour moi, donc voilà, gros bisous à toi Ludovico Bonnec.
C'est pour ça que t'es resté amateur.
On est d'accord, le meilleur gaucher de la rédac c'est Ludo, c'est pas Rotten.
Ah oui, non, moi j'ai toujours préféré Ludo Bonnec.
Ouais, il y a pas match, il est pas invité,
attends, c'est important Simon, pourquoi t'aimes pas Rotten?
Non, j'aime bien Jérôme, mais je préfère la manière dont tirait les coups francs Ludo Bragnac.
Merci,
bien sûr.
Faut rendre à César ce qu'il y a à César quand même là.
Qui a marqué la semaine dernière avec le Média FC sur coups francs.
Qui s'est battu sur ton maillot. Ouais.
Vous savez qu'il y a le Mediatico ce week-end. Hein.
Oui.
Gros match hein, ce week-end Ludo, tu seras là?
Ben non.
Mais comment ça non?
Je remplace Roland.
Non, mais des merdes, attends.
Ah ça tu vois avec le boss Gilbert. Hein.
Ah non, mais c'est pas possible ça. Il est au courant Gilbert?
Ah oui, il est au courant.
Mais c'est n'importe quoi les mecs ça. Bref, on va demander à Roland de revenir un peu. Bon allez, salut Simon.
Salut Simon, merci
pour le
compliment.
Tiens, je donne également le tirage au sort de la Youth League, des huitièmes de finale de Youth League, la Ligue des Champions des jeunes. Alors je vous donne les tirages au sort qui concernent les clubs français. Chelsea-Montpellier et puis Lyon-Ajax. Voilà, les 12 et 13 mars. Pas mal ça aussi. Petite info qui concerne les clubs anglais également. La FIFA a annoncé aujourd'hui avoir sanctionné Chelsea pour les deux prochains mercato pour non-respect du règlement sur les transferts de joueurs mineurs. Alors Chelsea qui pourrait ne pas recruter avant l'été 2020. Alors le club a annoncé qu'il faisait appel, donc l'appel est apparemment suspensif.
Ils ont intérêt parce que vu l'effectif qu'ils ont, vu les problèmes qu'ils ont,
vu que Hazard
au bout d'un moment ils vont en avant, ils vont leur partir. Je sais pas comment ils vont faire s'ils peuvent pas recruter. Hein.
Et puis une petite info également, c'est Laporte qui a prolongé avec Manchester City jusqu'en 2025.
Très bien.
Le plus utilisé par Pep Guardiola cette saison, Emeric Laporte.
Très bien. Est-ce qu'il est, tu trouves comment qu'il voit, toi qui vois beaucoup
Franchement, il est, autant il a eu un début de saison un peu compliqué, là il est vraiment pas mal. Ouais.
Pas mal.
Pour Guardiola le fasse jouer souvent, c'est qu'il n'est pas dégueu Laporte quand même.
On a quand même beaucoup de très bons défenseurs centraux gauchers. Mais que gaucher.
Ouais.
L'anglais.
C'est le PD, pas ça, ouais.
L'anglais, Laporte, Umtiti. Ouais. Le meilleur de tous, Lucas Hernandez, qui gâche sur un côté. Il y a du monde, hein.
Dans quelques instants, on sera avec un supporter d'Arsenal. On vous attend d'ailleurs au 32-16, pour revenir d'ailleurs sur ce tirage au sort de huitième de finale d'Europa League. Et puis les infos du jour également avec Ludo Braillac et Jonathan Macardy. À tout de suite.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovic Obraniak et de Jonathan Macardy et de Simone Rovera. Qu'est-ce que tu fous là, Bonassara, bonsoir.
Allez, Mina.
Ciao, Bonassara, bonsoir.
Salut, Simone.
Alors, la porte était ouverte.
T'es rentré.
Et donc, je suis rentré.
Le pire, c'est que c'est vrai. C'était pas prévu, c'est pas dans le conduit. Hein. Il est pas là. Jérôme Thomas m'a dit il a envie de venir. Bah, viens, bonhomme.
C'est écoute, je vais m'excuser avec Ludo Braniak.
Pourquoi ?
Parce que j'ai trompé.
Il a mis le drapeau de la Pologne, il a mis le drapeau de Monaco.
Ouais, il est rouge en bas, l'autre blanc.
Bon, écoute, c'est une erreur.
C'est pas grave. Voilà. Tiens, un petit mot, tiens, qu'est-ce qu'on dit du tirage au sort de l'Europa League ? On était en train d'en parler, là. On rappelle que Rennes jouera face à Arsenal. Match 7 et 14 mars prochain. Pour l'Inter, ce sera face à l'Eintracht Francfort. Pas simple.
Les Italiens ont été très sympas, surtout avec Rennes. Ils ont dit très bon tirage pour Chelsea-Arsenal. Donc, c'est ça. Non, triage compliqué, c'est considéré pour surtout pour l'Inter.
Et puis Naples,
parce que l'Eintracht, c'est un club difficile à jouer. Naples s'est déjà fait un peu piéger la saison dernière par les cousins de Salzbourg, les Red Bull de Leipzig, et au 16e des finales. Donc, on attend beaucoup de choses en plus, mais quand même, ça n'a pas été considéré comme un bon tirage, celui du club italien.
Tiens, justement, alors, Jérôme est en train de me dire, le grand favori, alors lui, il me dit, c'est Naples et Chelsea. Moi, franchement, j'ai du mal à dégager un favori dans ces huitièmes de finale. Hein. Mmh. Même si c'est vrai que les affiches sont, sur le papier, on va dire, un peu déséquilibrées, c'est pour ça qu'il n'y a pas de grosses affiches pour l'instant. L'écart, ils peuvent être sexy.
Une belle équipe.
L'écart peut être sexy. Il faut dire, Chelsea, pour l'instant, c'est l'équipe qui a eu un tirage un peu plus simple.
Mais Francfort, c'est pas mal.
Francfort, quand même, est sorti de...
C'est pas mal, Francfort.
Oui. Est sorti sur un tirage pas simple pour eux, pas simple pour l'Inter, mais pas simple même pas pour eux. Donc, c'est vrai que Chelsea, c'est la seule équipe...
Chelsea Dynamo Kiev, on rappelle le match.
Chelsea Dynamo Kiev, c'est une équipe qui a un parcours un peu plus simple. Même Séville, ça tombe pas sur un gros morceau.
Séville, Slavia de Prague, ouais.
Donc,
je vous rappelle les huitièmes de finale. Arsenal-Rennes, Chelsea-Dynamo-Kiev, Eintracht-Inter-Milan, Dynamo-Zagreb-Benfica, Naples-Salzbourg, Valence-FC-Krasnodar, Séville-Slavia-Prague, Zénith-Villarreal.
Naples.
Ouais, Naples aussi. Parce que,
putain, c'est vide, les gars, moi, je sais pas.
Naples, parce qu'au classement, enfin, voilà, ils ont plus que ça à jouer.
Ouais, remarque, c'est vrai, ils sont peinards, le Napoli, là.
L'avantage de Napoli, c'est d'avoir, je pense, 13 points d'avance sur le cinquième.
En plus.
Et 11 points de retard sur le deuxième. Donc, les championnats, c'est fini pour Naples. Il y a que ça à jouer. Je pense qu'on verra plus, même si hier c'était un match plutôt positif, mais des remplaçants, c'est-à-dire Ounas qui a fait un très bon match, Verdi, Kirikes, que ça faisait un bail qu'il jouait pas parce que c'était
Milik a joué.
Ouais. Il est rentré en fin de match. Mais les titulaires.
Il arrive pas à revenir.
Non, mais Milik va très bien. Les problèmes, c'est que Mertens joue mieux moins en championnat, donc lui a laissé la porte ouverte en Ligue Europa. Mais c'est le seul joueur que on peut considérer, c'est pas un vrai rotation. Il y en avait plein hier de rotation, Diawara titulaire, donc Ancelotti sur le match retour peut faire tourner. Je suis convaincu que sur un match aller, sur un match qu'il faut jouer, il faut gagner, Ancelotti va faire tourner un championnat.
Tiens, Milan a gagné 3-0 ce soir face à Empoli.
Ouais, Devin qui a marqué.
Et Piatek.
Le copain de Léo, là. Celui dont tu t'es planté de drapeau, là.
Ouais, c'est lui. Ouais. Bah écoute, c'était similaire. C'était pas loin. C'est 4 buts en 4 matchs en championnat. Si je ne me trompe pas, les seuls qui avaient fait si bien sur ses débuts au Milan, c'était Birov.
Tu croyais pas, toi, Ludo?
Non, j'étais, oui, un poil sceptique.
Non, tu croyais pas.
Non, j'étais un poil sceptique, c'est vrai. Je dois l'avouer.
Après, faut qu'il,
On était ici, hein.
Mais, non, mais là, c'est,
Alex
c'est.
Il disait à Genoa, c'est une chose, au Milan,
c'est pas. Non, mais c'est surprenant.
C'est vrai.
Non,
cet été, quand il a signé au Genoa, on avait fait, tu sais, dans les afters de l'été, on avait fait une liste de joueurs à suivre cette saison, je l'avais mis dedans. Parce que, c'est un joueur qu'on voit sur cassette, sur YouTube, machin et tout, et que c'est parce que, ouais, il jouait à Cracovie, hein, il jouait pas, tu vois. Tu sens quand même que le mec, face au but, c'est un tueur, quoi. Ouais, ça sert pas. Il suffit qu'il y ait un ballon.
La doublette avec le jeune brésilien là, ça.
Paqueta, imaginez que cette semaine, il avait fait un seul entraînement complet parce qu'il avait eu la fièvre. Donc ça entraînait pas bien. Il est sorti sur les 3-0, lui et Piontek. Après les 3-0, sont sortis une minute plus tard parce que Milan quand même va doit jouer aussi en demi-finale des Coupes d'Italie. Et aujourd'hui, ils sont un point de retard sur l'Inter, qui va jouer ce week-end à Florence. Les prochains matchs, déplacement de l'Inter encore à Cagliari et Milan à domicile face à Sassuolo. Et derrière, il y a derby. Attention, parce que si c'est pas avant les derbies, dans les derbies, Milan risque de passer devant l'Inter.
Tu parles de Piontek, là. Ça risque de changer diamétralement l'ossature de la sélection polonaise aussi, parce que on avait que Lévy devant qui jouait tout le temps seul en pointe. Et là, tu vas être obligé de composer.
Ils sont pas complémentaires.
Tu vas être obligé de le prendre quand même avec la saison qu'il fait.
Ça serait le remplaçant de Lewandowski.
Tu peux pas le mettre en plaçant.
Tu peux pas te permettre de mettre un joueur à 25 buts pour titulariser un milieu défensif en plus.
C'est Lewandowski.
Tu peux changer.
Tu peux trouver une configuration.
Ils sont pas complémentaires.
Tu les as jamais vus jouer ensemble.
Mais ils ont le même profil.
Ils ont pas le même profil. Lévy, le Piontek.
Peut-être que Lewandowski peut jouer un peu numéro 10, un peu en retrait, c'est vrai. Mais, je sais pas. Ouais. Le numéro 10, c'est Krikoviak.
Petites infos du jour également. Il y a dimanche à 21h, il y a Monaco-Lyon. Il y a pas mal de forfaits pour l'ASM. Jeubels, Nkoudou, Jovetic, Pellegrini et Mboula. Sachez qu'Oleg Petrov est officiellement le nouveau directeur général de l'AS Monaco. Ouais. Il a été officialisé, intronisé aujourd'hui, ce russe de 55 ans. À noter que le conseil d'administration de l'ASM, qui s'est réuni aujourd'hui, n'a pas officiellement écarté Vadim Vassiliev, qui est pour l'instant toujours vice-président. Poste que devrait occuper dans les prochains temps Oleg Petrov, le nouveau DG, justement.
Quand le jour on a le temps, on fera au moins un talk.
Voilà, c'est la géopolitique, les mecs.
C'est pour ça, parce que il y a des implications.
Il y a quelques divergences en interne. Et puis, Rudy Garcia a commenté le burn-out d'Adil Rami aujourd'hui en conférence de presse. L'entraîneur de l'OM était aujourd'hui en conf. Qu'est-ce qu'il pense du burn-out révélé par son joueur, Rudy?
Je suis d'accord avec lui.
Je pense que lui, il a jamais utilisé le terme burn-out. Ça lui a été soufflé. Je pense qu'il faut avoir du respect pour ce mot-là, même s'il n'est pas français, il est étranger ce mot-là, il est anglais, mais parce qu'il y a des gens, quand ils souffrent de ça, ils sont vraiment pas bien, quoi. Donc Adil, il est loin de ça. Bien évidemment que je suis derrière lui, que quand il sera revenu à 100%, c'est un joueur très très important. Il l'a montré la saison dernière, ça a été la pierre angulaire de la défense sur les 62 matchs pratiquement. Après, ce que je peux dire de logique, c'est que quand on se sent pas bien, vaut mieux le dire et pas jouer. Quand on est bien, on est bien. Quand on n'est pas bien, faut savoir le dire aussi.
Alors, il y a eu ce gros buzz que vous avez certainement suivi autour de toi, là, Jonathan. La réponse d'Adil Rami sur les réseaux sociaux également. Finalement, il lui met un petit tac quand même, Rudy Garcia. Là.
Il est obligé. Il est obligé. Là, sa communication, Adil, est très mauvaise. Comme il le dit, le terme burn-out, même s'il le récupère, jamais doit prononcer ce mot-là.
Oui, et pour répondre à Rudy Garcia, c'est bien lui qui le prononce, le mot aussi. Même si
oui,
c'est le journaliste,
il lui a été soufflé.
Voilà. Lui dit, il reprend le mot, il insiste derrière.
Mais le problème, c'est si je me suis entre guillemets pris le bec avec lui, c'est parce que pour moi, il y a des choses qui sont inadmissibles dans son comportement. C'est quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie à la base, tu vois. Il est marrant, il suit le MMA, machin et tout. Je le vois sur Instagram et tout. C'est quelqu'un avec qui, tu vois, je me dis, il a l'air bonnard et t'as envie d'être sympa avec lui. Le problème que j'ai avec lui, c'est que bon, je vais pas m'en cacher, j'ai une acquaintance très forte avec l'Olympique de Marseille. C'est le péché originel, c'est de dire que l'OM c'est son club de cœur, machin et tout, alors qu'on sait très bien qu'il a refusé deux fois de venir à l'OM quand il était dans la force de l'âge. Ça, ceci étant dit, ce qui m'a énervé dans cette déclaration, je voulais le dire, c'était un petit intérêt gratuit. C'est un tag gratuit, mais c'est moins grave qu'un doigt d'honneur. Non, ce qui m'a énervé dans cette histoire vraiment, c'est que le mec arrive, je suis d'accord, il y a peut-être une décompression.
Le spécialiste des clubs de cœur, c'est pas Fugomis, non, le spécialiste des clubs de cœur.
Non, sérieusement, écoutez-moi. Ce qui m'a fait, je peux comprendre qu'il y a une décompression post-Coupe du Monde, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que moi, j'ai un peu du mal à comprendre, et ce que j'aime pas, c'est quand les actes sont pas en cohérence avec la parole. Je vous rappelle que au moment où il est repris par Deschamps, où il est rappelé par Didier Deschamps pour le premier rassemblement post-Coupe du Monde, il a une décla après un match, je sais plus contre qui c'était, où il dit oui, je suis pas bien du tout, mais maintenant j'ai fermé ma gueule et je vais me remettre au travail et voilà, faut que je me remette au boulot, machin et tout. Mais le problème, c'est que ça, il l'a pas fait, ça s'est pas suivi par une amélioration de ses performances sur le terrain.
Ah, il a pas ouvert sa gueule, du moins,
je trouve ça très malvenu d'une part, de prendre la parole quand tu as perdu ta place, quand il y a une charnière centrale qui est en train de s'installer avec deux jeunes joueurs qui sont en devenir, Chahé Tatsar et Bouba Camara, qui sont en train de le, qui, voilà, on sait que c'est la charnière sur laquelle le Marseille va travailler. C'est un peu malvenu, je trouve aussi, de dire que, Marseille, c'est un club où il faut avoir connu la crise une fois. Non, ben non, mon grand, non, t'es censé être un pilier du projet.
Mais Jonathan, il les enfonce pas, les actuels titulaires.
Non, mais je trouve que c'est pas de dire oui, voilà, je vais revenir, machin et tout, comme si ça allait être une évidence qu'il allait prendre sa place. C'est ce qui est sous-entendu, je sais pas bien, et je trouve surtout inadmissible qu'un joueur que sur lesquels tu as beaucoup d'attentes, parce que moi j'avais beaucoup d'attentes sur Adil Rami en début de saison.
C'est marrant, tu vois, j'ai
beaucoup d'attentes.
Moi j'ai pas du tout la même lecture.
Attends, juste écoute, que c'est pas ça, c'est le plus important. C'est un mec qui doit être le pilier du projet de l'OM, on est d'accord, ça doit être un des tauliers de l'OM, et d'entendre dire en tant que personne qui aime beaucoup l'Olympique de Marseille que pendant 6 mois il avait pas envie, et ben je suis désolé, ça fait mal. Surtout quand c'est un mec qui est censé être important dans le groupe.
Ludo, t'as joué avec Adil Rami.
Ça le met dans tous ses états là.
T'as vu, c'est dingue, hein. Quand il mitraille comme ça, c'est que vraiment il est vénère.
Ça m'a énervé. Après c'était pas contre
Ludo non plus. Il nous reste une minute, mais vas-y. Toi, t'as joué avec Adil Rami. Moi, je t'avoue, j'ai pas du tout eu cette lecture-là après ces déclarations.
Non, Adil, il a tendance.
Même si ça peut être parfois maladroit.
Il a tendance à être maladroit en termes de communication et trop naturel. Là, en l'occurrence, il s'exprime sur une maladie qui peut être mal interprétée. Aussi par rapport à sa blessure où il dit qu'il a été content presque d'être blessé. Je veux dire, t'as un club derrière qui a misé gros sur lui. Donc, par rapport à son salaire, ça c'est malvenu. Il s'est mal exprimé. Je pense je peux comprendre qu'il y a eu à un moment donné une décompression, une espèce de dépression post-Coupe du Monde, où justement quelqu'un qui vient, qui sort de nulle part et qui a tout vécu en l'espace de si peu de temps, peut se réveiller un matin et se dire mais qu'est-ce que je peux aller chercher
dans quelle société on est à
Moscato,
30 ans de socialisme, hein, c'est ça, hein.
Je peux comprendre ce de dire le matin, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que je vais encore aller chercher, je suis champion du monde, j'étais ci, j'étais ça, je suis installé dans la jet set, je peux comprendre ça, mais ces déclarations sont malvenues et bah il en paye le prix.
Stop, c'est fini les gars. Simonet, juste, tu voulais ou pas adresser un message à un joueur quelconque qui nous réponde sur les réseaux sociaux?
Non. Je vais pas insulter Totti.
Insulter.
Ouais, en plus, moi, j'ai un mec, je l'aime bien, je lui souhaite qu'il revienne.
T'as pas un mec comme ça, tu veux clasher la soir, là?
Non, clasher, non.
Donc, avec la chat, attends.
Ouais. Non, Icardi. Icardi, revient parce non, que mais enfin, ta calche, il faut que tu reviennes parce que sinon.
Mais tu sais.
Et un message à Vanda.
Mais tu sais que, elle peut-être qu'il remerciera tous ces gens-là.
Ah, vraiment?
Parce que je sais qu'Adil, il a eu besoin, là. Je pense que ça l'a vexé. Il est piqué. Et il va revenir, ça va lui redonner l'énergie pour revenir.
C'est quoi, moi j'espère
et je
juste
pense
une
que
chose.
Ça, il remerciera tous ces gens.
Moi j'espère juste une chose, c'est qu'il fasse fermer la gueule de tout le monde, qu'il revienne et qu'il fasse des très belles performances à l'OM, et je serai le premier à le reconnaître, y a pas de problème.
Merci Jonathan, merci Ludo, merci Simonet, merci Jérôme Thomas, merci Daniel Torres, toutes les équipes techniques, bien entendu, et puis on vous dit à demain, bisous, ciao ciao.
RMC Football Show, l'After Foot.